Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade et Aliette Ovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Alice Seyed.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
On continue notre excursion dans l'univers de l'art et de la création. Après avoir examiné les transformations du statut de l'artiste au cours des siècles, puis interrogé le rôle du droit dans la création, on s'intéresse aujourd'hui à ce que l'art fait au territoire. Depuis les années 80 et la mise en place de la politique visant à décentraliser l'offre culturelle, quel bilan peut-on tirer de la multiplication des centres d'art contemporains en France ? La démocratisation espérée a-t-elle eu lieu ? Et plus largement, quels nouveaux rapports se dessinent aujourd'hui entre l'art et les territoires? Voilà les questions auxquelles on va tenter de répondre dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Les territoires de l'art, voilà le sujet que nous allons explorer en compagnie de Chloé Langeard, maître de conférences en sociologie de la culture à l'université d'Angers, en compagnie également de Théodoro Gilabert, avec nous en duplex de Nantes, docteur en géographie et professeur au lycée Pays de Ré de Pornic. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Chloé Langeard et Théodoro Gilabert, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, pour commencer, pourquoi, selon vous, est-il intéressant, Chloé Langeard, de relier la question de l'art à celle du territoire ?
Bonjour, alors merci déjà pour votre invitation. Alors pour répondre à cette première question, je dirais très rapidement voilà, qu'on est passé d'une politique culturelle plutôt d'État, on parlait même d'étatisation de la culture, et on est passé à des politiques culturelles plurielles et plus ancrées sur les territoires. On a parlé aussi de mondialisation de la culture, mais aujourd'hui, il semble qu'on peut parler de territorialisation de la culture, tout simplement parce que les collectivités territoriales, on le verra notamment après, quand on fera un retour sur l'histoire des politiques culturelles, mais les collectivités territoriales sont passées d'un suivisme, c'est-à-dire qu'elles suivaient la politique culturelle d'État, à une certaine autonomie, qui fait qu'aujourd'hui, elles définissent, on le verra, leurs propres principes d'action culturelle.
Alors depuis les années 70 et 80, on assiste à une multiplication des liens dédiés à l'art contemporain en France. C'était l'objet de votre thèse, Théodoro Gilabert. Au début des années 60, il n'existait que trois lieux d'exposition institutionnelle dans l'Hexagone. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Oui, donc dans les années 60, on avait des lieux essentiellement parisiens, le Musée national d'art moderne qui a été créé donc en 1947, et puis le Musée d'art moderne de la ville de Paris, donc qui existe toujours aujourd'hui, toujours au Palais de Tokyo, qui a été créé en 1961, et puis un musée plus ancien, le Musée de Grenoble, qui est le premier musée en fait qui s'intéresse vraiment à l'art moderne ou à l'art de son temps, donc qui date de 1921. Aujourd'hui, donc on consultant la source la plus fiable actuellement, qui est l'annuaire officiel du Centre national des arts plastiques, eh bien, on trouve 788 lieux d'art contemporain. Bon, alors, il faut préciser ce qu'on entend par lieux d'art contemporain. Ce sont les artothèques, 50 artothèques, 20 centres culturels à l'étranger, 64 centres d'art conventionnés, 3 fonds départementaux municipaux, 23 fracs, 413 lieux d'exposition divers, 60 manifestations biennales comme la FIAC actuellement, 113 musées, 19 musées d'art contemporain et plus de 300 galeries.
Alors donc, voilà qui est dit. Ce qu'on constate peut-être, c'est un double mouvement, à la fois une concentration de ces centres d'art dans les grandes villes, à commencer par Paris, et en même temps une décentralisation culturelle permise par les politiques d'aménagement culturel du territoire, dont on va parler plus en détail.
Oui, c'est ça. Donc les deux phénomènes, mais le phénomène marquant, enfin ce qui m'intéresse le plus, c'est de montrer qu'on a tout le territoire donc qui est désormais irrigué par des lieux d'art contemporain, qu'ils soient institutionnels ou non.
Et alors, comment expliquer cette augmentation de l'offre ? Parce que ce qu'il faut commencer par dire, c'est que ces lieux sont rarement rentables, Théodoro Gilabert.
Oui, ben, ce sont des lieux à vocation culturelle. Alors, il y a certains lieux qui ont vocation à être rentables, je pense, certaines fondations privées, soit directement par les revenus, soit par des systèmes de défiscalisation. Mais globalement, ça me titre qu'un théâtre, ça n'a pas forcément l'objectif d'être rentable. Alors, moi, je veux bien revenir sur les politiques culturelles qui ont emmené donc cette multiplication des lieux.
Alors, on va y venir, mais d'abord, peut-être un mot, Chloé Langeard, dire que l'entrée dans les FRAC, donc les fameux fonds régionaux d'art contemporain, est gratuite, par exemple. Les retombées économiques de ces centres d'art contemporain sur le territoire, elles sont assez minimes.
Alors, les retombées économiques, elles commencent tout juste à être, on va dire, comptabilisées. C'est quelque chose de nouveau. On parle d'externalité positive maintenant des équipements culturels, et effectivement à côté des enquêtes sur la fréquentation de ces lieux, eh bien on s'interroge sur ce que ça fait au territoire et notamment ce que ça produit en termes économiques. Alors les retombées économiques, elles sont toujours très compliquées à comptabiliser. Néanmoins, il est clair que il y a une relation qui a été démontrée entre les équipements culturels et puis l'attractivité notamment des territoires, mais qui ne passe pas que par les équipements culturels. C'est ce qu'on verra peut-être plus tard dans l'émission.
Alors justement, revenons un petit peu en arrière, à la fin des années 50, au moment où s'invente véritablement la politique culturelle en France. C'est la figure de Malraux qui permet de d'étatiser l'anti-étatique, pour reprendre la formule du sociologue Quentin Fondu, Théodoro Gilabert.
Oui, donc effectivement, avant Malraux, on n'est pas grand-chose sous la Quatrième République. Enfin, on peut quand même mentionner quelques événements. J'ai parlé du Musée national d'art moderne à Paris, donc en 1947, pour parler de Tokyo, qui expose quand même pour la première fois des artistes du temps, à savoir des artistes qui avaient été oubliés donc dans la première moitié du XXe siècle. Et le nouveau directeur des musées nationaux à l'époque, Georges Salles, dit aujourd'hui, cesse le divorce entre l'État et le génie. Alors, je crois que c'est ça l'objectif aussi de l'État, d'éviter de renouveler l'erreur du 19e ou du 20e siècle. On est passé à côté des impressionnistes, ensuite à côté des premiers cubistes, qui ont été achetés d'ailleurs à l'étranger, mais pas vraiment en France. Toujours sous la 4e République, on met en place le 1% culturel, le 1% artistique, ce qui fait que depuis 1951, théoriquement, dans chaque bâtiment scolaire ou universitaire, on a des œuvres d'art, à part que ces œuvres d'art ne sont pas forcément de qualité extraordinaire. Si les auditeurs essayent de se rappeler ce qu'ils ont vu comme œuvres d'art dans leur lycée ou dans leur université, ce n'est pas toujours brillant, parce que c'était une sorte de copinage. On ne s'intéressait pas forcément aux artistes émergents de qualité. Il n'y a pas vraiment de comité de sélection.
Et alors, à la fin des années 50, la figure de Malraux arrive.
Oui. Malraux arrive, donc 1959, c'est la première fois qu'on a un ministre d'État chargé des affaires culturelles. Et ce ministre d'État, eh bien, il a une vision géographique du développement culturel. Le problème, c'est que la vision géographique du développement culturel, lui, c'est plutôt dans le domaine du théâtre, qui est plutôt son domaine de prédilection. Il crée les fameuses maisons de la culture dans les villes moyennes. Et puis, il n'a pas vraiment d'appétence pour l'art contemporain. D'ailleurs, il confond un peu l'art moderne et l'art contemporain. Quand il veut faire avancer les choses, ben, il organise par exemple la première rétrospective Picasso en 1966. Alors, difficile de dire que Picasso est un artiste contemporain, où il fait réaliser le plafond de l'opéra, toujours en 66, par Chagall. Peu de choses donc pour l'art contemporain. Une biennale des jeunes donc organisée au Palais de Tokyo. Les jeunes, c'est moins de 25 ans. Et pendant donc son mandat, finalement, le seul lieu inauguré, ça a été une fondation privée, la fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence, qui a été inaugurée donc en 1964. Donc un bilan aussi relativement modeste, même si on a des ambitions quand même plus fortes que sous la 4e République. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de budget. Donc l'essentiel ou la priorité, c'est plutôt la dissuasion nucléaire, se sortir de la guerre d'Algérie, etc. Alors, donc on n'avance pas tellement par rapport au lieu d'art contemporain.
Chloé Langeard, on peut dire que l'objectif des politiques culturelles mises en place par Malraux, c'est déjà de démocratiser l'art contemporain.
Alors, démocratiser l'art contemporain, pas forcément. C'est la démocratisation culturelle, ça, certainement. Hein, rendre accessible donc les œuvres capitales de l'humanité, d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français. Mais disons que, effectivement, comme l'a dit hein, Théodoro Gilabert, l'art contemporain n'était pas sa préoccupation première et il avait quand même une vision aussi pas très démocratique hein, de l'art, puisqu'il avait une vision artistique très religieuse et élitiste. Hein, pour lui, effectivement, la relation de l'individu à l'art passait par le choc esthétique et non pas par le pédagogisme, ce qui fait d'ailleurs qu'on s'est coupé pendant très longtemps des mouvements de l'éducation populaire.
Il faut attendre Georges Pompidou pour que naisse en France une véritable implication de l'État dans le domaine de l'art contemporain, Chloé Langeard.
Oui, effectivement. Je pense que peut-être Théodoro Gilabert est plus à même hein, de répondre à cette question que moi, puisque moi je suis plutôt spécialisée sur le théâtre.
Théodoro Gilabert.
Oui, donc Pompidou, donc en 1969, donc on change de profil au niveau de la présidence. On a un amateur d'art, de poésie, agrégé de grammaire, normalien, donc un profil plutôt atypique. Donc au niveau de la présidence de la République, et c'est dès le début de son mandat qu'il a l'idée de lancer ce qui ne s'appelle pas bien entendu le centre Pompidou, mais le centre Beaubourg. Au départ, on a trouvé un quartier à Paris plutôt mal famé qu'on peut raser sans trop de problèmes. Et ce qui pose problème, c'est plutôt la réalisation architecturale donc qui est projetée. Alors Le problème avec Pompidou, c'est qu'il a cette ambition donc majeure, qui est finalement un peu une idée gaulliste, à savoir mettre en avant la puissance de la France, qui est effectivement mal placée par rapport aux États-Unis. On aimerait en fait faire le MoMA, l'équivalent du MoMA à Paris. On est très en retard. Et le fait de mettre toutes les forces et une partie du budget de l'État dans ce projet, ça bloque tout projet en province. Donc ça finit par faire quelque chose de très centralisé. Mmh. Alors pendant cette période, peu d'exceptions quand même en province, on peut les citer. Donc on a en 1973 deux musées, un centre d'art plastique contemporain à Bordeaux, le CAPC, qui existe encore aujourd'hui. Et puis au Sable-d'Olonne, le musée Abbaye de Sainte-Croix, qui est un musée qui accueille des œuvres contemporaine. Donc quand Pompidou meurt en avril 74, on a toujours ce projet hein, qui n'a pas abouti. Et c'est finalement son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, qui est chargé de mener à bout ce projet, à part qu'il ne défend pas vraiment ce projet, il n'y croit pas beaucoup. Et sans le Premier ministre Chirac, peut-être que ce projet serait tombé à l'eau. Finalement, il a été inauguré en 77 et un projet qui était au départ très centralisateur sur Paris, eh bien, a fini par se décentraliser, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, eh bien, on a des antennes du centre Pompidou en France et hors de France.
Le centre Georges Pompidou, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, on l'a compris, Chloé Langeard, montre cette centralisation absolue de l'art contemporain à cette époque-là.
Oui, on est encore dans une centralisation de l'art contemporain, mais très concrètement, on est de toute façon hein, jusqu'à la fin même des années longues hein, sur une politique de l'offre où quand même ce qui compte, c'est de construire des équipements culturels. Et comme l'a très bien dit Théodoro Gilabert, voilà, on est vraiment sur une politique culturelle qui a une vision géographique en définitive du développement culturel. Donc on reste encore effectivement très centralisé jusque dans les années 80 où effectivement là on a cet élan de décentralisation, l'apparition des FRAC et les FRAC.
Donc les fonds régionaux d'art contemporain.
Pardon, oui, les fonds régionaux d'art contemporain. Les régions s'en emparent d'ailleurs pour pouvoir marquer culturellement leur identité. Et puis un soutien important des collectivités, notamment dans le développement donc, de l'art contemporain à travers le soutien aux centres d'art contemporain.
Alors justement, avec François Mitterrand et Jacques Lang, on passe donc de l'élitisme pour tous à l'art, peut-être comme moyen de créer une certaine cohésion sociale. Écoutons justement Jacques Lang.
On peut réussir à ébranler une ville, à la transformer, donc j'imaginais, à toucher profondément un pays en visant haut. Je crois que quand on mène soit localement dans une ville, dans un village, une action pour les arts, on doit avoir une double volonté. D'abord se battre pour son art, pour ce à quoi on croit, et puis ensuite progressivement faire partager cette conviction à d'autres.
Est-ce que vous avez démocratisé la culture ?
Je le crois. Je crois que dans ce pays, nous avons réussi à aiguiser le désir de beauté.
Jack Lang dans l'émission Bouillon de culture le 19 février 1993. Qu'est-ce que ça nous apprend, cette expression aiguiser le désir de beauté, Chloé Langeard?
Alors justement, c'est pas très révélateur au final de la politique qu'il a menée dans le secteur culturel, puisque pour Jack Lang, hein, ce qu'il caractérise et ce qui caractérise son mandat, c'est que très vite, il a donné une fonction économique et sociale à la culture, à savoir que, bon, alors il a effectivement doublé le budget du ministère de la Culture, il a introduit de nouvelles esthétiques aussi, comme le hip-hop, les graffitis, parce qu'il se disait qu'en définitive, en élargissant le champ culturel, eh bien, on allait élargir les publics et surtout, on allait valoriser des identités, notamment l'identité des jeunes des quartiers. Les années 80, c'est les banlieues, le phénomène des banlieues. Et effectivement, il a réussi à revaloriser des genres très populaires comme le hip-hop ou encore les graffitis. Donc ça, c'est pour le côté social de la culture. Et au niveau économique, ça aurait été intéressant. Il a prononcé à un moment donné qu'effectivement, culture et économie, c'était le même combat. Ça a été le premier ministre de la culture à mettre culture et économie côte à côte, alors que ce sont des mondes qui se sont construits quand même de manière, on va dire, inversée. Et effectivement, pour la première fois, un ministre dit que la culture peut créer des emplois et de la richesse économique, alors que la France connaît une crise économique très importante.
C'est d'abord un objectif de cohésion sociale qui est poursuivi notamment par ces lois de décentralisation de 1982, Théodoro Gilbert.
Oui, donc la vraie rupture par rapport à la géographie de l'art contemporain, c'est effectivement Jack Lang. C'est la première fois qu'on a un couple président-ministre qui fonctionne bien. Il y a bien eu le couple de Gaulle-Malraux, mais il n'y avait pas beaucoup de moyens. Donc là, comme l'a dit ma collègue, là, on a doublé les moyens du ministère. L'objectif, c'est d'atteindre 1%. Et l'idée du budget de l'État, et l'idée, c'est de démocratiser en décentralisant les deux choses en même temps, avec beaucoup d'ambition. Alors, on a parlé des FRAC, je pense qu'on peut y revenir, parce que justement, les FRAC, c'est vraiment l'élément moteur qui a permis d'avoir un effet sur les autres lieux d'art contemporain, donc fonds régionaux d'art contemporain. Donc la création, c'est en 1982. Le principe, c'est de créer un fonds par région. Un fonds, c'est-à-dire une collection, même si la différence entre fonds et collection, c'est qu'un fonds, c'est pas forcément homogène. On peut avoir un fonds hétéroclite qui est destiné à ensuite être diffusé en région. Donc le financement des achats se fait à parité État région. Et donc ça a permis vraiment d'aller à l'extérieur des grandes villes. Jusqu'à présent, les musées qui étaient créés, c'était dans les villes, donc une décentralisation relative. Et là, on s'en va à la campagne. On peut donc aller dans des écoles, dans des hôpitaux, etc., présenter donc des œuvres d'art.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces nouveaux lieux dédiés à l'art contemporain, Théodoro et Gilbert, ils sont créés par l'État, mais aussi par des acteurs privés.
Oui, alors, donc l'initiative vient de l'État qui montre donc l'exemple avec les FRAC. Et ensuite, on a d'autres initiatives de l'État qui vont entraîner après des initiatives privées. Donc ce qu'on a appelé les grands travaux du président Mitterrand, quantité de grands travaux, il y a à peu près 10% qui sont dans le domaine de l'art contemporain. Donc un musée d'art moderne et contemporain à Strasbourg, un carré d'art à Nîmes, le Centre national d'art contemporain à Grenoble, un musée d'art moderne et contemporain à Saint-Étienne. Et puis du coup, ça donne des idées donc aux collectivités locales, à part qu'il faut aussi des moyens et puis aussi quelques aides techniques. Alors ça, c'était permis par le renforcement des DRAC. Les DRAC qui sont les directions régionales pour l'action culturelle. Alors là, on n'est plus vraiment dans la décentralisation. Là, on est dans la déconcentration du ministère. On renforce les moyens dans chaque région avec des conseillers aux arts plastiques qui peuvent aider donc les collectivités qui veulent se lancer dans l'aventure de la création d'un centre d'art, d'un lieu d'exposition, etc.
Et alors, du côté des artistes, ce qui est intéressant, peut-être, Chloé Langeard, c'est que la question sociale devient l'un des enjeux du travail de création et aussi l'un des critères pour obtenir un financement public.
Alors effectivement, progressivement, c'est devenu l'enjeu. Alors pas pour tout pas pour tous les artistes hein, plasticiens, mais pour tous les artistes plasticiens qui travaillent dans ce qu'on appelle des projets artistiques et culturels de territoire, c'est-à-dire en dehors des équipements dont on vient de parler. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la politique culturelle, notre politique culturelle, c'est d'abord une politique de l'offre, une politique d'équipement. Et puis aujourd'hui, on peut dire qu'elle est remplacée par une politique de projet. Et dans ces appels à projets, hein, qui sont faits notamment par les collectivités territoriales, mais aussi par les hôpitaux, par les écoles, vous avez des appels à projets qui aujourd'hui demandent à ce que les artistes effectivement travaillent en relation avec un contexte, un territoire, ce qui amène ces artistes plasticiens effectivement à œuvrer collectivement, notamment avec des habitants, des structures associatives, avec du personnel soignant, avec des instituteurs, pour au final créer une œuvre in situ et non pas hors sol. Parce que les œuvres qui sont dans les équipements culturels, ce sont des œuvres la plupart du temps hors sol.
Donc l'action culturelle, Théodoro Gilbert, est désormais, à partir des années 80, associée aux activités sociales, éducatives, menées notamment dans le cadre de la politique de la ville.
Oui, la politique de la ville et donc des politiques aussi municipales d'action culturelle. Là, je pense notamment aux commandes publiques. Alors, les commandes publiques qui se multiplient pendant les années longues. Alors, il faut savoir que les commandes publiques, il n'y en a pas eu en France au XXe siècle avant Jack Lang. Hein. La grosse période de commandes publiques, c'était la fin du XIXe. On a parlé de statue money avec l'historien Agulon. Là, on faisait des grands hommes de la République, des allégories, etc. Après, il y a eu les monuments aux morts en 1918. Et après, rien du tout. Ça veut dire que les artistes modernes, Picasso et autres, Fernand Léger, on les a jamais vus dans l'espace public. Il a fallu attendre donc Mitterrand, Jack Lang pour qu'on donne des moyens par l'intermédiaire donc des DRAC ou de l'État pour faire des commandes publiques. Alors la commande publique, c'est une œuvre, un achat d'œuvres qui est financé à parité ou en partie par l'État et en partie par les collectivités locales. Et ça, c'est quelque chose qui se développe. Alors il y en a qui sont très spectaculaires, hein, comme les fameuses colonnes de Buren à Paris, et puis d'autres donc qui sont dans les stations de métro, qui sont dans les lignes de métro, tramway comme à Toulouse, à chaque station on a une œuvre d'art. Et là on va vers les publics. Alors est-ce qu'il s'agit d'une politique de la ville, je ne sais pas, mais en tout cas d'une politique de diffusion de l'art contemporain là où on a un public qui est pas forcément le public de l'art contemporain.
Alors on a parlé de la multiplication de ces centres d'art contemporain. Alors la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que l'accès est facilité pour autant? C'est la question de l'impact de ces initiatives sur le public. Et ce qu'on peut commencer par dire, c'est que le bilan de la fréquentation des centres d'art contemporain est assez maigre, Chloé Langeard. Et déjà, comment est-ce qu'on l'évalue, cette fréquentation?
Alors, l'évaluation, de toute façon, comme elle se pose au niveau des politiques culturelles, c'est à travers l'étude des pratiques culturelles des Français. C'est une étude qui est réalisée par le service des études donc du ministère des Affaires culturelles, hein, début des années 60, puis aujourd'hui le DEPS, hein, département des études de la prospective et de la statistique, avec le sociologue Olivier Donna, qui tous les 7-8 ans voilà, réitère cette enquête sur les pratiques culturelles. Et ce que nous montre cette enquête, hein, sur les pratiques culturelles, qui cherche à mesurer, on va dire, l'efficacité de l'action publique, laisse chaque fois penser à l'échec de la démocratisation culturelle, et ce, on va dire, quelle que soit la discipline artistique concernée.
Oui, Olivier Donna avait montré que les milieux sociaux les moins investis dans la vie culturelle ne fréquentaient pas plus les musées depuis une quarantaine d'années.
Voilà, on a doublé le budget, hein, dans les années 80, du ministère de la Culture. Et pour autant, on constate toujours une surreprésentation des catégories socio-professionnelles supérieures et des habitants aussi de Paris intramuros. C'est ce qui fait qu'on a parlé, hein, dès les années 90. Olivier Donna lui-même, hein, a parlé d'échec de la démocratisation culturelle, alors même qu'on avait doublé, hein, je rappelle, le budget du ministère de la Culture.
Théodoro Gilbert, on peut parler à la fois d'une faible fréquentation et d'une fréquentation par des profils socioculturels plutôt aisés.
Oui, alors effectivement, on a multiplié, multiplié les lieux de l'art contemporain qui, comme on l'a dit, en plus sont souvent des lieux gratuits. Je pense au FRAC, il y a très peu de FRAC qui sont payants. Et bon, ça signifie pas forcément qu'on élargisse le public. Alors parfois, il y a quand même des opérations qui fonctionnent. Il faut nuancer quand je parle des FRAC. Donc, il y a diffusion des FRAC en région, dans des écoles, dans les hôpitaux. Et là, je pense que forcément, ça marche. Mais après, quand on a un public réellement libre d'entrer dans les centres d'art, eh bien, on se retrouve effectivement avec les catégories sociales privilégiées qui fréquentent donc ces lieux. Effectivement, la politique culturelle n'a pas changé grand-chose. On a une politique de l'offre. Il faut savoir que la demande, eh bien, elle reste quand même une demande concentrée dans un certain type de population et que finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Alors, dans ma thèse, un des éléments que j'ai développé, c'est la contradiction entre une politique culturelle d'ouverture et puis un système éducatif par rapport à l'art et aux arts d'une manière générale qui est très, très faible. Là, il y a une contradiction.
On va en reparler, Teodoro Gilbert, mais d'abord, comment comprendre donc, que cette multiplication de l'offre n'est pas entraînée véritablement de démocratisation culturelle? Je vous propose d'écouter les explications de la sociologue Nathalie Hennick.
Alors, les gens face à quelque chose qu'ils n'arrivent même pas à identifier, à qualifier, à catégoriser, ont tendance effectivement à se demander d'abord, non pas est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie quelque chose? Et ensuite, ils vont essayer soit de produire eux-mêmes des significations, pas toujours de façon très habile, soit de faire l'hypothèse que finalement ça ne veut rien dire et on se fiche de nous, ou bien que ça veut dire quelque chose, mais de tellement ésotérique et compliqué que seuls les grands spécialistes peuvent comprendre. Donc on a cette accusation donc de manque d'authenticité de l'artiste par fumisterie, par je m'en foutisme, etc. On a toutes les accusations sur le thème « ça n'est pas de l'art, ça n'est pas de la peinture, ça n'est pas bien peint, ça ne représente rien, ça ne signifie rien ». Bon, on a également des valeurs civiques de type le bon usage des fonds publics, hein, qui là est très très souvent amené dès lors qu'on a des commandes publiques. Enfin, il y a toutes les formes, disons, de gestion de ce sentiment d'exclusion que l'on peut éprouver face à un objet qu'on ne comprend pas.
Ce sentiment d'exclusion dont parle ici Nathalie Hennick, il est provoqué principalement par la difficulté à appréhender l'art contemporain, Chloé Langeard?
Alors pour moi, c'est pas tant, selon moi, le caractère contemporain de l'art que son enfermement, encore une fois, entre quatre murs. Encore une fois, au théâtre, il n'y a pas plus de monde hein, qui se dirige vers le théâtre. On est aux alentours de 16%. Bon, c'est simplement que, enfin, si on regarde hein, maintenant, l'art envahit l'espace public, ça c'est une donnée certaine, et on voit que, pour le coup, la confrontation hein, à l'art contemporain ne relève plus d'un choix individuel puisque l'art contemporain est là, dans l'espace public. Et pour le coup, il suscite de l'émotion, il suscite bien évidemment de la critique, de l'étonnement, de la polémique, mais est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ce qu'on recherche au final quand on finance de l'art contemporain? Est-ce que c'est pas justement la critique, l'étonnement, la polémique? Est-ce que l'art ne sert pas au final à ça?
Mais est-ce que l'art contemporain ne nécessite pas tout de même spécifiquement d'être expliqué pour devenir accessible? Est-ce qu'il suscite moins de révélations esthétiques que d'autres œuvres plus classiques? Est-ce qu'on ne peut pas le dire comme ça, Chloé Langeard?
Bah, si, effectivement, on le voit hein, d'ailleurs même à travers la FIAC hein, qui sort de ses murs et qui met en place un service de médiation. Hein. On a créé les médiateurs culturels depuis les années 90. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas besoin de médiation, bien évidemment, mais il me semble que, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple du voyage à Nantes, où vous avez voilà, une trentaine d'œuvres hein, qui sont installées dans la ville. Les habitants sont, alors, et qui est pérenne, hein, c'est un parcours dans la ville qui est devenu pérenne. Les habitants sont constamment, effectivement, je dirais, aux côtés de ces œuvres, côtoient ces œuvres. Et au final, ces œuvres vont venir questionner des espaces vécus par les habitants. Les habitants vont même parfois détourner ces œuvres, vont se l'approprier. Et c'est là que ça devient effectivement intéressant. Et c'est possible, encore une fois, parce que c'est dans l'espace public et pas entre quatre murs.
L'enjeu de l'accès à l'art contemporain, Teodoro Gilabert, passe par une éducation artistique. Pour le dire autrement, l'accès physique aux œuvres seul ne suffit pas. Il faut le doubler d'un accès intellectuel. Et est-ce qu'il devrait être pris en charge davantage, selon vous, par l'éducation nationale?
Oui, alors effectivement, au niveau de l'éducation nationale, eh bien, vous savez que les moyens sont très faibles. Alors, dans les collèges, donc on a un professeur d'art plastique. On avait jusqu'à présent une épreuve d'histoire de l'art là, mais qui semble disparaître au brevet. Ensuite, dans les lycées, il y a pratiquement plus de professeurs d'art plastique. Et puis, même si l'histoire des arts apparaît dans les programmes, il n'y a pas d'évaluation spécifique, ce qui veut dire que c'est relativement peu évoqué par les professeurs. Donc, au niveau, en tout cas, de l'État, on peut dire qu'il y a quand même cette contradiction, même si Jack Lang, à un moment, parlait de développer l'histoire des arts, c'est un peu un serpent de mer, ça, l'histoire des arts.
Pardon de vous interrompre, Théodore Roger-Labert, il y a quand même un certain nombre de mesures en faveur de l'éducation artistique qui ont été mises en place dans les années 80 et 90. Pourquoi est-ce qu'elles ont échoué?
Elles ont échoué par manque de moyens. C'est-à-dire quand on parle d'éducation artistique, d'histoire des arts, et que bon, ça se fait à moyens constants, que quand un lycée un peu périphérique doit aller donc dans le lycée de la ville à côté à 50 km, eh bien on n'a pas forcément les budgets pour circuler. Donc c'est compliqué. Alors je vais donner un contre-exemple à ça. On parlait de Nantes tout à l'heure. À Saint-Nazaire, il y a un centre d'art qui s'appelle le Grand Café. Et là, il y a une politique de municipale. Mais là, on est bien dans le cadre municipal. C'est plus l'éducation nationale qui consiste à emmener les enfants des écoles primaires, maternelles. Je pense que le Grand Café, là, ça fait 20 ans que ça existe. Ça fait 20 ans qu'il y a des enfants qui vont régulièrement, à tous les âges, visiter donc un lieu d'art contemporain avec des médiateurs. Bien entendu, c'est gratuit. Alors, ça se fait à l'échelle municipale, donc les bus sont gratuits. Et là, donc, une politique à l'échelle locale, ça doit exister ailleurs, ça peut fonctionner, mais à l'échelle nationale, c'est difficile. On n'a pas les moyens et on se retrouve confronté effectivement à une sorte de mur intellectuel. C'est ouvert, la porte est ouverte, mais on n'y va pas forcément. Alors, Nathalie Heinick parlait de compréhension. Effectivement, il y a ça. Puis il y a le fait qu'un regard non éduqué, on se dit forcément comprendre, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de comprendre. On peut s'intéresser et se poser des questions sans être bloqué par l'absence de compréhension.
Chloé Langeard, cette éducation artistique, quelle forme est-ce qu'elle devrait prendre selon vous?
Oui, alors il y a effectivement une faible politique d'éducation artistique et culturelle. Alors on invoque souvent l'histoire des moyens. Alors moi, pour avoir suivi un projet d'éducation artistique et culturelle dans une ville moyenne, dans un quartier défavorisé, je peux vous dire que c'est aussi la confrontation entre deux mondes, entre le monde de l'éducation et le monde de la culture. Et quand on est sur le terrain, on s'aperçoit qu'effectivement, pour les enseignants, l'éducation artistique et culturelle, c'est aussi prendre du temps sur certaines matières scolaires, alors même que les enseignants se plaignent déjà de ne pas avoir assez de temps pour finir leur programme scolaire. Donc il y a une espèce de concurrence aussi qui se joue entre acteurs sur le terrain. Et au final, on s'aperçoit qu'une politique d'éducation artistique et culturelle, effectivement, elle est très ancrée sur un territoire. Et plus que ça encore, elle dépend d'une politique d'établissement. C'est-à-dire qu'elle tient à quelques personnes dans l'établissement, souvent des enseignants qui sont déjà en fait intéressés par l'art et qui vont s'engager extrêmement pour essayer de diffuser effectivement l'éducation artistique et culturelle au sein des classes de leur établissement. Mais ce qui crée au final quand même beaucoup d'inégalités entre les territoires en termes justement d'éducation artistique et culturelle.
Listen up now. Tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. And everyone and friends and family saying, hey, go get a job. Why do you only do that only? Why are you so hard? And we don't really like what you do. We don't think anyone ever will. We think you have a problem. And this problem's made you ill. appreciating the sun. He's out there all his waking hours. Oh, and who's to say he's wrong? But the artist walks alone. And someone says behind his back, he's got some gall to call himself. They sit in front of their TV, saying, hey, isn't this a lot of fun? And they laugh at the artist, saying he don't know how to have fun. And listen up, and I'll tell a story. An artist growing old. Some would try for fame and glory. Others like to watch the world.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? On parle de l'art, de ce que l'art fait au territoire avec Chloé Langeard et Théodoro Gilabert en duplex de Nantes. Alors, est-ce que la solution de l'accès aux œuvres passe par une intégration plus grande des habitants? C'est ce que l'on va voir maintenant. Et d'abord, il faut expliquer que cette multiplication des centres d'art contemporain, des lieux de l'art contemporain dont on parle depuis le début de cette émission, c'est aussi lié à une évolution des pratiques artistique, Chloé Langeard.
Oui, alors effectivement, on va dire que l'art contemporain a trouvé d'autres scènes de diffusion. Donc on en a rapidement parlé, mais on peut parler donc de l'hôpital, de l'école, en particulier, hein, c'est deux univers que je connais particulièrement bien. Et donc on a délocalisé comme ça le cadre de création, ce qui fait que les artistes plasticiens sont amenés à créer, hein. Ils ont des résidences artistiques dans les hôpitaux, dans les écoles et même dans les prisons. Ce qui fait que ces artistes, bien évidemment, sont beaucoup plus en prise avec le contexte dans lequel ils créent, qui est un contexte, je dirais, complètement différent, hein, de l'atelier, voilà. Et ils peuvent pas créer sans prendre en compte, effectivement, les individus qui sont dans ces établissements, que ce soit les prisons, les hôpitaux, les écoles, etc. Donc on peut réellement parler d'œuvre imprégnée, puisque pour le coup, l'œuvre n'a de rapport que par rapport à son inscription dans un espace situé. Et effectivement, pour que la création fonctionne, l'artiste est amené à coopérer avec différents acteurs. Alors si c'est l'hôpital, effectivement, l'artiste il va coopérer avec qui ? Avec les patients, avec le personnel soignant. L'artiste n'est pas souvent le bienvenu dans ces cadres-là. Pourquoi ? Parce que l'hôpital a autre chose à faire, hein, et les infirmiers ont souvent autre chose à faire, donc il n'est pas forcément le bienvenu. Et pour autant, le fait de travailler dans de nouvelles conditions de travail amène l'artiste en fait à plusieurs déplacements, et notamment à développer un portefeuille de compétences professionnelles, et notamment à développer sa capacité d'adaptation pour ne pas déranger les pratiques indigènes. C'est comment créer, mais en prenant en compte les autres.
Désormais, les plasticiens essayent de répondre aux contraintes imposées par les différents espaces publics ou privés, ruraux ou urbains. Théodoro Gilabert, c'est l'idée que le musée et la galerie classique, dont les cahiers des charges remontent au 19e siècle, au début du 20e siècle, ne sont plus adaptés.
Oui, donc l'art est sorti de l'espace muséal avec l'art contemporain. On a des performances qui sortent du musée, des installations qui se font à l'échelle urbaine. J'ai dit qu'il n'y a plus d'art urbain depuis la fin du 19e. Donc là, on voit la multiplication des actions. Donc on a parlé tout à l'heure des actions à l'intérieur des hôpitaux où les malades peuvent aussi être acteurs. Il y a des artistes qui jouent aussi là-dessus, là ce qu'on a parfois baptisé l'esthétique relationnelle, c'est-à-dire des artistes qui d'une certaine manière, la production consiste à établir un réseau entre des acteurs spectateurs. Je pense à un exemple de Laurent Morisseau à Fontenay-le-Comte il y a quelques années, là, qui a appelé tous les gens de la ville à venir à la poste mettre les numéros de téléphone sur des ballons de baudruche qui étaient ensuite lancés lors d'un événement festif, et puis ces ballons qui s'envolaient donc dans le ciel finissaient par retomber avec un numéro de téléphone, et on peut imaginer que les gens qui tombaient sur le numéro de téléphone rappelaient la personne. Voilà l'idée de créer du lien à travers une démarche artistique. Alors là, on voit bien que ce genre d'opération, ça ne peut pas du tout se faire dans le cadre du musée. Donc ça a contribué effectivement à éclater le musée et à créer d'autres lieux en dehors des musées.
Des espaces qui ont des contraintes, et ces contraintes sont parfois source de créativité.
Alors là, on est sur une île, pas n'importe laquelle, qui est un parc national. C'est une forêt en pleine mer qui est protégée. Et donc ici, par exemple, pour installer des œuvres, là on se situe dans un jardin, on a juste devant nous des espèces rares, fragiles, protégées. Donc installer des œuvres dans ce contexte, il faut effectivement danser au milieu de ces contraintes de protection, mais qui font en fait la richesse du projet, parce qu'on est au sein d'un trésor de vie. Donc par exemple, pour l'installation d'un labyrinthe, on ne pouvait pas le faire puisque les parois en miroir étaient gênantes pour les oiseaux, puisque les oiseaux rentraient dedans. Donc on a dû imaginer avec le parc national en fait un système de ceinture de canne de Provence tout autour de l'œuvre, et finalement de cette contrainte est née une amélioration de l'œuvre, puisque l'artiste préfère largement justement cette ceinture de végétation qui participe à la perdition en plus du visiteur à l'intérieur. Là on est devant une œuvre qui est coproduite avec l'île. Donc là l'artiste a décidé, Jaume Plenza, il a décidé de coproduire. Donc il a fait une patine brute et c'est l'air, les embruns, le sel qui patine de manière naturelle l'œuvre.
Charles Carmignac, directeur de la Villa Carmignac dans le Var, qui accueille une collection d'œuvres contemporaines. Cette adaptation aux contraintes naturelles, Chloé Langeard, c'est l'un des aspects essentiels de l'art contemporain. Qu'est-ce que ça nous apprend ?
Oui, ces créations in situ, ce qu'elles nous montrent, c'est que l'œuvre ne se résume plus à une restitution finale hors sol, et que finalement les artistes, ce qui peut paraître pour des contraintes au départ, sont finalement source de créativité. Je peux encore là aussi reprendre, alors là c'est effectivement lié à l'espace naturel, mais on peut reprendre comme exemple l'hôpital et l'école. Très concrètement, à l'hôpital, eh bien la visibilité, plutôt que la visibilité, voilà, on préfère la confidentialité. L'artiste, très concrètement, doit s'ajuster quand même aux conditions d'hygiène et de sécurité qui sont quand même très strictes. Très concrètement aussi, il y a une palette de couleurs qui est obligatoire dès lors qu'on intervient dans l'hôpital. Il faut savoir aussi mettre à distance ses émotions, alors que tout ça, c'est du registre de l'art.
Une palette de couleurs ?
Palette de couleurs, effectivement, puisque c'est le bleu que nous connaissons dans les hôpitaux, ou le jaune, vous savez, le jaune très pâle. Voilà. Et donc, si vous voulez, les artistes plasticiens, effectivement, quand ils interviennent, ils doivent intervenir avec ces contraintes. Ça veut dire que la plupart du temps, ils sont en confrontation avec les architectes de ces établissements pour imposer, effectivement, d'autres couleurs. Mais parfois, ça marche pas. Et donc, ils doivent faire avec ces contraintes. Et puis, si on prend le cas de l'école, eh bien, la forme scolaire, c'est quand même la méthode disciplinaire. Ça repose sur les sanctions, les évaluations. Bref, ça s'oppose au régime de singularité dont parle Nathalie Hennick. Et donc, bien évidemment, même dans les lieux scolaires, vous voyez les espaces des classes, ce ne sont pas toujours des lieux qui sont adaptés, on va dire, à la conduite des activités artistiques. Mais ce qui ressort, en tout cas, moi, de mon travail d'enquête, qui donnera bientôt lieu à une publication sur l'art à l'hôpital, c'est qu'au final, ces contraintes deviennent source de créativité. C'est une autre façon d'expérimenter l'art et d'expérimenter son travail artistique.
Le fait de sortir des espaces muséaux permet précisément d'aller à la rencontre de nouveaux publics, comme on va l'entendre.
Je pense qu'une politique culturelle, ce n'est pas une circulation des œuvres majeures, etc. Une politique culturelle, c'est ce que vous disiez, c'est la réinvention des relations entre les gens, les artistes et les intellectuels. Et on se demande comment comment on s'y prend, hein, comment on crée des œuvres qui sont adressées aux gens qui sont là, comment, et alors a fortiori face à la génération qui est la nôtre en fait, qui a besoin, on le sait, les jeunes demandent beaucoup ça, qui a besoin de nouveau de se sentir acteur, de se sentir impliqué dans les questionnements. Donc la vraie politique qu'il nous faut, c'est pas une politique de circulation des œuvres majoritaires, c'est une politique de nouveaux usages des espaces publics culturels, où comme lorsque Malraux a inventé les maisons de la culture, les jeunes viennent à la fois, bien sûr, voir des œuvres, etc., mais aussi se politiser, faire la fête, discuter, réinventer des nouvelles manières collectives d'être ensemble et de faire œuvre.
Marie-Josée Malice, la directrice du théâtre La Commune à Aubervilliers, on l'entend, le public n'est plus un simple spectateur, il devient véritablement acteur.
Oui, très concrètement, on est passé d'une vision descendante hein, de la démocratisation culturelle, de l'État vers un public hein, qu'il fallait conquérir, à une vision plutôt ascendante de la démocratisation culturelle, où effectivement, alors c'est ce qu'elle dit, elle parle des gens qui deviennent acteurs. Aujourd'hui d'ailleurs, on ne parle plus tellement de public, on parle de population, ce qui montre bien cet effet du territoire hein, sur l'art. On parle de population qui fait qu'on a aussi une autre manière d'envisager ce que sont ces publics. Ces publics ne sont plus de simples destinataires, ce sont avant tout des acteurs hein, à part entière du processus. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, en tout cas ce que les artistes hein, sont amenés à faire, c'est de faire avec les habitants et non plus simplement pour les publics. Tout simplement, voilà, ces publics, ce sont avant tout donc des habitants, ça peut être aussi des citoyens, ça peut être des usagers, mais ce n'est plus un réceptacle. Voilà. Ils deviennent acteurs à part entière, donc des processus de création.
Mais ce qu'il faut expliquer peut-être, Chloé Langeard, pardon de vous couper, mais c'est que ça ne concerne pas tous les artistes contemporains. De quels artistes est-ce qu'on parle ici ?
Alors, je parle des artistes, effectivement, qui interviennent hors les murs. Et c'est pas les mêmes réseaux que ceux qui circulent hein, sur le marché mondial ou encore dans les établissements culturels les plus légitimes. En tout cas, pour l'instant. On voit que se dessinent, on va dire, plusieurs réseaux. Donc, il y a le secteur marchand, on le connaît. Le secteur non marchand, on en a parlé. Mais dans le secteur non marchand, il y a le réseau plutôt étatique et légitimé avec ces grandes institutions hein, qu'on connaît tous, notamment de l'art contemporain. Et puis, il y a le réseau un peu secondaire, celui des collectivités territoriales et justement qui est un réseau, on va dire, plus territorialisé, pour le coup, moins légitime. Et donc, se dessinent à partir de là différents types de carrières artistiques. Et pour l'instant, effectivement, cette échelle de légitimité, on va dire, les artistes les plus légitimés sont encore dans les espaces reconnus par l'État et moins dans ces espaces hein, dont on parle. Espace public, mais il en réside, enfin il y en a quand même certains. Je voulais donner cet exemple tout à l'heure, c'est l'exemple de l'estuaire, qui est ce parcours hein, pérenne d'œuvres entre Nantes et Saint-Nazaire, qui met en perspective justement la création contemporaine dans un paysage à la fois urbain et puis les paysages aussi sauvages de l'estuaire de la Loire, avec justement cette volonté d'associer les populations des communes. Pourquoi ? Parce que ça se passe sur 12 communes et qu'à un moment donné, quand on vient implanter une œuvre d'art dans un champ qui appartient à quelqu'un, eh bien, il va falloir commencer à négocier et puis effectivement expliquer à la population que ces œuvres sont là pour offrir de nouveaux points de vue sur leur ville et puis sur les paysages sauvages de l'estuaire. Donc il faut vraiment faire avec les populations, on ne peut plus faire, en tout cas, sans ces dernières.
Et ce qui est intéressant, Chloé Langeard, c'est que la participation des habitants à la vie culturelle dont vous parlez, c'est également un enjeu politique qui permet l'expression citoyenne.
C'est un enjeu politique qui permet l'expression citoyenne et je crois qu'il y a un exemple qui le montre bien, assez récent, c'est à travers la Fondation de France qui a une action qui s'appelle les nouveaux commanditaires, où là, en fait, toute personne de la société civile qui souhaite, par le biais d'une commande artistique, questionner des enjeux de société, eh bien, peut rassembler un artiste, donc ce citoyen commanditaire et puis des médiateurs culturels, peut s'entourer aussi de partenaires à la fois publics et privés pour justement, mettre en place une création sur son territoire. Et je vais prendre cet exemple-là, qui est celui de Christian Boltanski, donc qui est quand même extrêmement reconnu, et qui a fait, à travers cette action nouveau commanditaire, Terre, un parcours d'ombre pour justement animer donc les remparts d'une petite ville, hein, qui est la ville de Grancey-le-Château-Nevelle. Voilà un bel exemple, une belle réussite, et qui montre effectivement que le citoyen peut être acteur aussi de cette politique culturelle.
Théodoro Gilabert, sur cette participation artistique des habitants.
Oui, alors donc effectivement, c'est quelque chose qui se développe, mais je crois que ça reste quand même marginal. J'ai l'impression qu'on est toujours quand même globalement dans la politique de l'offre et essayer de s'insérer dans les endroits où il n'y a plus d'art contemporain. Aujourd'hui, quand on regarde la carte de l'art contemporain en France, y compris dans ce qu'on appelait par exemple en géographie la diagonale du vide, eh bien au niveau de l'art contemporain, il n'y a pas de vide. Et donc, eh bien les investisseurs privés ou les collectivités essayent de trouver une niche pour s'installer. Alors je parlais là, donc de ces lieux un peu atypiques de l'art contemporain. Par exemple, bien dans les vignes maintenant, tout château vinicole là, qui se respecte, eh bien crée donc un lieu d'art contemporain dans le sud de la France, Château Lacoste à Aix, etc. Donc de commanderie de Pérassol dans le Var. Alors là, le public ne participe plus vraiment. C'est un public captif, un peu venu par hasard, ou un public qui vient pour l'art. Et on a l'impression que c'est une logique actuelle, enfin une tendance, hein, de vouloir offrir de l'art contemporain partout en France sans forcément vouloir participer, parce que là, en l'occurrence, le public est complètement un public classique.
Et on peut également citer le street art et son influence sur la ville.
Moi, ce qui me dérange le plus, c'est le public extérieur qui aime le graffiti en galerie sur un beau tableau, une belle fresque et tout. Mais par contre, hein, avoir un tag sur son portail, ça fait chier. Mmh. Et pourtant, le graffiti vient de là, quoi. Il faut pas oublier vraiment d'où il vient le graffiti. Le graffiti, c'est une façon de vivre, c'est une façon de penser, c'est une façon de regarder la ville, la rue, le mobilier urbain.
J'aime bien la lumière.
Ce qu'il y a derrière le graffiti, c'est des mecs, c'est des souvenirs, c'est des anecdotes, c'est des galères, c'est des procès, c'est des amendes. Donc voilà, c'est le fait de le faire dans la rue, entre autres illégalement. Bah, c'est ça qui est hyper fort. C'est ce truc-là qui me donne l'énergie, qui me fait sortir de mon lit, qui me donne envie de produire et de laisser, comme tout humain, laisser une trace dans le monde dans lequel on est. Et je trouve mettre de la couleur sur les murs, c'est pas une si vilaine trace.
Le graffeur aubaine dans le documentaire Street View. Quel rôle le street art joue-t-il, Chloé Langeard, dans cette démocratisation de la culture dont on parle depuis le début de cette émission?
Le street art, donc, qui est né à peu près dans les années 50, il a été, il est né quand même d'une logique effectivement contestataire, comme le hip-hop, comme le rap, et il a été largement, on va dire, institutionnalisé. Et aujourd'hui, on peut dire que le street art, hein, c'est devenu un outil de valorisation d'espace et de projets urbains, donc il est instrumentalisé par les politiques publiques. Alors je vais vous donner l'exemple des échappées d'art à Angers, pour vous donner un bon exemple d'institutionnalisation du street art. C'est que aujourd'hui on dit aux artistes, voilà, vous avez le droit en fait de faire des graffitis sur ces espaces que la ville donc a repéré, mais pour ces artistes. Donc en gros, on voit que c'est devenu une pratique très normée et très encadrée par les politiques publiques.
Pour conclure, Chloé Langeard, vous diriez qu'on est parti de cette logique d'équipement fondée sur une politique de l'offre et donc de la diffusion, et qu'aujourd'hui on est peu à peu en train de passer à une autre logique que vous appelez celle de l'infusion, et qui est celle qui s'appuie sur des projets fondés sur l'appui sur les habitants.
Oui, tout à fait. Par contre, c'est vrai qu'elle est quand même marginale, et que dans les plus hautes instances de la culture, on n'est pas encore tout à fait prêt à accueillir du public.
C'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui d'une exposition qui ressuscite les cités en péril du monde arabe.
Mais oui, ce sont des structures hybrides, des blocs de pierre contre des tranches de vide. Les images fantômes de cités en danger qui renaissent au regard grâce à la magie de l'imagerie 3D. Aux confins de l'Irak, de la Tripolitaine, des marches de Mossoul aux vestiges de Palmyre, c'est un voyage esthétique, émotif, une échappée physique et temporelle que nous propose l'Institut du Monde Arabe dans son exposition Cité Millénaire. C'est un voyage immersif proposé par l'IMA qui place le visiteur au plus près de ces vestiges de l'humanité, tels qu'ils ont été, mais aussi tels qu'ils sont aujourd'hui. Par d'ingénieux dispositifs vidéo, mais aussi grâce aux plongeons permis par la réalité virtuelle, le regard et l'imaginaire sont transportés au cœur du vieux souk d'Alep ou face aux ruines de la mosquée Al-Nouri.
Un voyage virtuel permis par les avancées technologiques du numérique.
Exactement, ce sont ainsi des milliers de photographies qui ont été prises sur les sites par des drones volant à basse altitude. Des photos qui sont ensuite traitées, analysées comme une pluie de points, une constellation numérique passée au tamis de puissants algorithmes pour donner vie à une saisissante modélisation 3D. Ces travaux de cartographie et de documentation topographique ont été menés par l'architecte Yves Hubelmann, cofondateur de la start-up française Iconem, spécialisée dans les technologies numériques au service du patrimoine en danger. Ils se rendent ainsi dès 2015 en Syrie, à Palmyre, dès le départ des djihadistes de l'organisation État islamique, puis à Alep pour effectuer un relevé précis des ruines de la vieille ville.
Des images et des données mises au service de l'exposition Cité Millénaire.
Exactement, transformées en images de synthèse et en reconstitution numérique, ces données nous entraînent dans un voyage à travers temps et espace. Le visiteur est invité à une flânerie fantomatique au cœur de la mosquée des Omeyyades, chef-d'œuvre de l'art mamelouk érigé il y a plus de 13 siècles. Le minaret, entièrement détruit par les barbares de Daesh, se redresse sous les yeux du visiteur. À Mossoul, on observe en surplomb les abords chaotiques du fleuve Tigre, ravagé de cratères par la folie des hommes. Plus loin, les pas du visiteur sont pressés sous les coupoles magistrales de la cathédrale Notre-Dame de l'Eure. Soutenue de puissants piliers de marbre, cette architecture aux teintes ocre et bleu contemple les ravages commis au sol par les fous de Daesh.
Les équipes d'Iconem se sont également associées aux spécialistes du jeu vidéo pour produire des images numériques.
Absolument, après avoir baladé leurs perches photographiques et fait voler leurs drones au milieu des décombres, Yves Hubelmann et ses équipes ont demandé à l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft de leur prêter main forte pour refaire sortir du vide ces cités jadis puissantes, carrefour d'une modernité passée. Connus notamment pour les reconstitutions historiques époustouflantes de leur série de jeux Assassin's Creed, les équipes d'Ubisoft ont redonné vie au temple gréco-romain de Baal Shamin, situé à Palmyre et ravagé par les milices de Daesh. C'est l'évocation tragique et poétique d'un temple tout en transparence qui nous donne à voir l'image holographique d'un monument aujourd'hui rendu à la poussière. En réalité, cette exposition opère un travail de consolation par l'image, une réconciliation entre un monde perdu, dévoré par les barbares, et l'espoir d'une réhabilitation de ces glorieuses cités. Ces images, factices mais présentes, nous aident à penser l'époque actuelle comme un interstice, une entaille passagère dans la vie millénaire de ces monuments sacrés. Elles nous aident à faire le deuil d'une catastrophe arrivée de main d'homme. Elles nous permettent enfin d'espérer la restauration de ce patrimoine inestimable de l'humanité.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art?
On se quitte sur Mona Lisa de Nat King Cole. Merci beaucoup Chloé Langeard, maître de conférence en sociologie de la culture à l'université d'Angers. Et merci à vous Théodoro Gilabert, professeur au lycée Pays de Ré de Pornic et auteur de Fontaine, autobiographie de l'urinoir de Marcel Duchamp, paru aux éditions L'œil ébloui. Merci enfin aux techniciens de France Bleu Loire-Océan. Demain, la FIAC ouvre ses portes à Paris, l'occasion de parler de la valeur de l'art contemporain. En attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa.